France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Il est 8h38, nous partons à Nantes maintenant en voyage. Bonjour Jean Blaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas été vexé par la référence à Hervé Kettel, c'est plutôt...
Très honoré, très fier.
Vous êtes le directeur artistique et culturel du voyage à Nantes qui se poursuit jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 28 août, et qui nous donne l'occasion ce matin non seulement de parler de Nantes, qui est finalement toujours une bonne chose, mais aussi d'échanger sur les possibles de la politique culturelle et sur la place de l'art dans la ville, à la veille pratiquement, des célébration des 500 ans de la ville du Havre que vous allez également diriger en 2017. Vous aimez bien déranger les villes, hein, Jean Blaise.
Oui, les déranger, les animer, au beau sens du mot. Ce mot a été un peu galvaudé, donc on l'utilise plus, mais il est très fort. Animer, redonner vie, redonner envie. J'aime beaucoup ça parce que c'est là que ça se passe. L'accessibilité à l'art, à la création, se passe dans la ville, se passe dans l'espace public. Peut-être encore plus que dans nos lieux, que dans les scènes nationales ou les centres d'art.
L'idée, votre grande idée, l'idée de votre vie, Jean Blaise, en tout cas de votre vie dans le monde culturel, c'est de faire sortir la culture des musées, des institutions.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est un combat que vous êtes donné, comme ça, une mission.
Depuis 25 ans, ouais. À peu près.
Mais... Pour vous, la culture ne structure pas assez la ville encore, elle ne fait pas encore assez la ville, il faudrait...
Oui, je pense qu'elle est souvent à côté de la ville. Mais je me permets de le dire parce que j'ai dirigé des scènes nationales, j'ai dirigé des lieux. Donc
vous-même êtes sorti, quoi, c'est ça.
Exactement, je sais comment ça se passe. Et j'ai toujours eu ce désir de faire en sorte que ces lieux, au moins, soient des places publiques, soient des lieux traversés par tout le monde, s'ils n'étaient pas fréquentés par tout le monde. Quand on a créé le lieu unique, avec Patrick Bouchain, c'était ça.
Lieu unique à Nantes, donc, pour les non-nantais ou les gens qui ne connaissent pas Nantes. Oui. Une structure,
une friche industrielle qui a été transformée en scène nationale, mais dans laquelle on avait d'abord très très pluridisciplinaire, théâtre, danse, mais aussi philosophie, littérature, musique, art plastique, et également un grand bar, un grand restaurant, un hammam, une crèche, voilà, transformer ces lieux en véritables lieux de vie. C'est ce que souhaitait Malraux d'ailleurs à l'origine.
Avec les maisons de la culture.
Avec les maisons de la culture, et ça a dérivé.
Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a fallu changer depuis? C'était il y a un petit moment, déjà une cinquantaine d'années. Qu'est-ce qu'il faut changer de Malraux aujourd'hui?
Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les hommes, les hommes de théâtre, parce que c'est surtout des hommes, ont transformé les maisons de la culture en théâtre, et les ont fermées de plus en plus. Donc ça, c'est devenu des lieux de création, des lieux d'essai, certes très importants, mais qui se sont fermés sur elles-mêmes. Aujourd'hui, il faut les rouvrir. On a passé notre vie à essayer de faire entrer des élèves, des comités d'entreprise, des associations, au forceps, dans ces lieux de culture. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire l'inverse.
Mais ça n'a pas marché?
Non, ça n'a pas marché parce que c'était des publics captifs. Alors oui, ça a marché. Il y a eu des miracles. Moi, j'en suis un. Mais c'était quand même des publics captifs. Bon, aujourd'hui, ces lieux sont très importants. Il faut les conserver, mais il faut qu'ils changent de l'intérieur. Et il faut aussi, surtout, que les artistes qui les fréquentent sortent de ces lieux également. Qu'il y ait une restitution à l'espace public. Pour moi, c'est très important. Philosophiquement, mais aussi d'un point de vue positif, efficace. Si on veut toucher le plus grand nombre, c'est pas difficile. Il faut aller là où le plus grand nombre est, c'est-à-dire dans l'espace public.
Ouais, mais du coup, la relation, elle est différente. La relation du public à l'œuvre... au spectacle vivant, à l'installation, elle a rien à voir. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle ait rien à voir, justement?
Je pense qu'il faut s'adapter. Je pense que ça n'a rien à voir. L'art dans l'espace public et l'art dans des centres d'art ou dans des centres d'essai, ça n'a rien à voir. Un artiste, quand il va dans l'espace public, il intègre le fait qu'il va trouver un autre public, qu'il va s'adresser à un autre public. Il l'intègre. Et c'est pas de l'autocensure. C'est une façon de s'adapter. Il peut continuer à faire ce qu'il a envie de faire d'une façon totalement libre à l'intérieur des lieux dédiés à l'art, mais il s'adapte quand il va dans l'espace public. Et pour moi, ça n'est pas un problème, au contraire.
Le lieu unique dont vous parliez à l'instant, Jean Blaise, c'est aussi le point de départ de cette ligne verte du voyage à Nantes, finalement, qui continue encore pendant deux semaines. L'idée, c'est pas forcément de changer la ville avec le voyage à Nantes, c'est de modifier aussi sa perception. Sauf quand Aurélien Bory tord un boulevard à Nantes, là, il change la ville. Bon, voilà. C'est aussi surtout d'en modifier la perception, l'ambiance aussi.
tout à fait. Je pense qu'effectivement, l'art ne change pas la ville, ne transforme pas la ville profondément. Ce qui transforme la ville profondément, c'est un tramway. Ça, c'est sûr. C'est l'urbanisme, hein, en général. L'île de Nantes, aujourd'hui, est totalement différente de ce qu'elle était en l'an 2000. Et c'est une autre ville. La ville a totalement changé. Mais l'art, la culture, cette envie de créativité toujours montrée, hein, dans l'espace public, transforme l'ambiance de la ville. Quand vous êtes primo-visiteur à Nantes, et que vous arrivez à Nantes et que vous voyez des playgrounds dans l'espace public, que vous voyez des œuvres, vous ressentez cette ambiance, c'est presque psychologique, hein, cette envie de créativité, cette envie d'intelligence dans la ville, à la portée de tous.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Jean Blaise, quand même, de faire descendre l'art au niveau de l'urbanisme ? J'ai beaucoup de respect pour l'urbanisme, mais est-ce que ce n'est pas une façon aussi, ou un risque, là, comme ça, de dégrader l'art et d'en faire juste une fonction de la ville ?
Oui, oui, non, il y a un vrai risque, et c'est pour ça qu'il faut...
Ça.
Oui, il faut absolument maintenir les lieux dédiés à l'art. Moi, je ne les remets pas en cause, en tant que tel. Je remets en cause leur fonctionnement. Je pense que ces lieux doivent à nouveau se tourner vers le public, hein, et tenter des expériences qui fassent que il y ait une confrontation. Quand on crée des œuvres dans l'espace public, l'œuvre de Julien Berthier, par exemple, sur la place du Bouffet, on avait là...
Parlez-nous de cette œuvre, Jean Blaise.
D'accord.
Deux mots.
On avait là un chantier, hein, créé par la société de transport pendant tout l'été. On s'est dit, bon, soit on contourne la place du Bouffet, où on va habituellement, soit on vient se pluguer sur la place du Bouffet et on demande à un artiste de travailler avec ce chantier-là, hein, in situ, si on peut dire, pendant un temps. Bon. Et Julien Berthier a accepté le pari et il a imaginé que des containers du chantier aurait été découpé, hein, pendant ce qu'on appelle dans le jargon des travaux publics les temps étrangers, hein, des temps de latence où on manque de matériel, on ne fait rien. Ces containers auraient été découpés et les ouvriers auraient créé des espèces de pétales gigantesques qui forment un mobile semblable à un mobile de Calder, hein, qui est une réplique d'un mobile de Calder, mais multiplié par deux ou par trois, qui est suspendu au-dessus de la place du Bouffet. Voilà, donc cette grue à laquelle est suspendu le mobile sort du chantier, hein, de la ville. Voilà. Donc là, effectivement, l'artiste a joué pleinement avec la ville. Mais vous parliez tout à l'heure... On peut aller effectivement plus loin du chantier confié à Aurélien Bory, qui est plutôt un artiste du spectacle vivant, mais aussi plasticien.
C'est la compagnie 111.
Oui, et qui était à Avignon cet été. Et on a demandé à Aurélien Bory d'imaginer la transformation d'un boulevard, mais un boulevard qui fait quasiment un kilomètre de long, parce qu'il fallait que ce boulevard soit apaisé, qu'on crée des passages piétons, puisqu'il traverse le parc des chantiers, qui est un endroit très touristique de la ville. Et il a imaginé donc les traversées de ce boulevard, qui sont autant de lignes comme un fouillis, qui sont exactement l'inverse de ce que fait l'urbanisme habituellement, c'est des choses très rectilignes, très droites, très visibles. Voilà. Un artiste est venu se mêler de la transformation de la ville. Hein. Mais vraiment, au niveau des travaux publics, au niveau du goudron, un artiste a travaillé dans le goudron. Bon. Et quand on arrive là, on se dit oui que tout est possible.
Et la perception des Nantais par rapport à ce boulevard, la réception a été...
Elle est très bonne, mais maintenant ça y est, les Nantais, ils attendent toujours ce qui va se passer l'été prochain et ce qui va se passer en général, parce qu'ils ont été habitués à cette intrusion de la création dans l'espace public. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une tolérance à l'art qui s'est passée, que peut-être d'autres villes n'ont pas. Bon, et qui rend confiant. Mais évidemment, c'est un travail de très longue haleine, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans.
Ouais. Et c'est issu aussi d'une volonté politique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Jean Blaise, à mettre l'art aussi au service de la politique parfois ? C'est ce qu'on peut vous objecter, vous reprocher, le problème de la culture vécue comme une simple quoi, facilitatrice d'une vision politique ?
Oui, ben, si on peut me reprocher ça, mais en même temps, on a montré qu'on était toujours vigilants. C'est-à-dire qu'on a toujours été exigeant sur ce qu'on faisait dans l'espace public. Parfois, on a eu des conflits avec le politique, même avec le politique très proche de nous, hein, très 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 complice. On a eu des conflits parce qu'on ne voulait pas céder sur certaines propositions artistiques. C'est un pas un rapport de force, parce que la relation que j'ai eue avec le maire de Nantes et avec la maire de Nantes aujourd'hui, c'est des relations de complicité. Mais à certains moments, oui, ça peut être un rapport de force, parce que le politique, il est toujours aussi sujet aux réactions immédiates, aux réactions un peu épidermiques et immédiates. Donc il faut discuter, il faut convaincre, et puis surtout convaincre par cette détermination à long terme.
Ouais, mais c'est aussi le problème de l'artiste dépendant du politique.
Oui, bien sûr, mais vous savez, les artistes... les vrais artistes, les grands artistes, ceux qui sont libres, ils aiment la commande. Parce que c'est un jeu pour eux. C'est quelque chose qui les remet face à leur art. Hein. Et je crois que ça peut être pour un artiste très, très, très agréable et très, très puissant aussi.
Quelle nouvelle politique culturelle a développé en France, Jean Blaise? Vous écriviez il y a 2 ans, je crois, aux côtés de Jean Viard, dans un livre d'entretien avec Stéphane Paoli, « Remettre le poireau à l'endroit », que le ministère de la Culture, je vous cite, hein, n'a plus de grands projets visant à restituer de l'art et de la culture au peuple.
Oui, je pense que c'est vrai.
Non, ça seulement... se passe au niveau local, mais au niveau national, il se passe plus rien, c'est ça?
Oui, d'abord le national a délégué, hein, progressivement au local, hein, la question de la politique culturelle. Parfois c'est une bonne chose, parfois moins, hein, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui il manque un discours fort sur l'art, sur la création, sur l'utilité fondamentale de la culture. On n'a plus ce discours parce qu'on n'a plus de projet. Hein, je crois que l'art dans l'espace public pourrait redevenir un grand projet. D'ailleurs, Aurélie Filippetti s'en était emparée, m'avait proposé une mission, m'avait confié une mission sur cette question, qui devait aboutir à des mesures pour faciliter l'art dans l'espace public.
Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est en céphalogramme plat? Il ne se passe plus rien au ministère de la Culture?
Ben, je pense que de toute façon, ils n'ont plus le temps, là, c'est fini. Donc il ne se passera pas grand-chose. Hein. On va border, on va s'occuper des intermittents, bon, ce qui est une bonne chose. Hein, mais bon, les intermittents, ça fait 6 ans qu'on en parle. Oui, mais voilà, mais c'est ce qui a été fait, hein, jusqu'à présent. Bon, et aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le temps. Donc il ne se passera rien.
Bon, agir au niveau local, c'est bien, mais vous expliquez aussi dans ce livre, Jean Blaise, que la Nuit Blanche que vous avez créée à Paris vous déçoit aussi de plus en plus. Bon, c'était il y a 2 ans, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais vous allez nous le dire, qu'elle s'enferme, notamment pour des raisons de sécurité, pour des raisons de budget aussi, pour des raisons de sécurité. La Nuit Blanche s'enferme, c'est ce que vous dites. Vous êtes toujours d'accord avec ça?
Je suis toujours d'accord avec ça. Ouais. Oui, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, pour des raisons de financement, de fric, parce que l'art dans l'espace public, ça coûte cher. Ça coûte cher quand on le fait, et ça coûte cher aussi quand on l'entretient, parce que ça fait partie du patrimoine, en tout cas pour les œuvres pérennes. Bon. Et la Nuit Blanche a aujourd'hui ce travers, c'est-à-dire que c'est plus facile d'aller dans des lieux fermés, dans lesquels on fait entrer le public, que d'aller dans l'espace public. Alors que la Nuit Blanche, au départ, c'était ça, c'était comment, à un moment donné, une ville s'enflamme, entre guillemets. Finalement, la première Nuit Blanche à Paris, certes, il y avait des œuvres intéressantes, fortes, hein, je pense à celle de Claude Lévesque, par exemple, mais à d'autres, à Chaos Computer Club, bon. Mais finalement, les gens se baladaient et voyaient pas grand-chose. C'était la ville elle-même qui, tout d'un coup, vivait un autre air, vivait quelque chose d'autre, dans un autre temps.
Et quoi, aujourd'hui, c'est des files d'attente, alors?
Et aujourd'hui, c'est des files d'attente. Alors, si vous avez un coupe-fil comme moi, bon, pas de problème, vous voyez des installations intéressantes. Si vous n'en avez pas, vous faites des heures d'attente pour voir 2 œuvres dans la nuit. Je pense que c'était pas ça, l'idée.
Ouais. Sur la sécurité, on va pas régler le problème demain, on le sait bien. Il faut se battre pied à pied, Jean Blaise, pour garder l'espace public et vivant. C'est le combat, là, des mois qui viennent.
Il faut se battre, parce que les pratiques de la ville sont en train de changer d'une façon absolument incroyable.
L'annulation de la braderie de Lille, tiens, par exemple, comment vous réagissez à ça? Alors, c'est pas de l'art, c'est pas de la culture, mais c'est quelque chose aussi qui amène une autre vision de la ville pendant un moment donné.
Ben, on voit bien l'émotion que ça provoque. Il y a une véritable émotion, y compris de Martine Aubry. Je pense pas que c'était fin. Parce que la braderie de Lille, c'est la tradition, c'est quelque chose qui dit la ville. Ça, c'est à Lille et nulle part ailleurs. C'est l'identité de cette ville. Et tout d'un coup, on l'empêche. Bon, et donc je pense que l'émotion est très forte de ce côté-là. Mais en même temps, je ne me permettrai pas de dire il aurait fallu la faire, parce qu'il y a d'autres questions autrement plus importantes qui se posent. Mais on voit bien là, c'est un bon exemple, à quel point l'intervention dans l'espace public est fondamentale pour la vie d'une ville.
La crise politique qu'on traverse, la crise peut-être identitaire aussi, sont les symptômes avant tout d'un désengagement des citoyens. C'est une crise culturelle, Jean Blaise ?
Oui, je pense que c'est une crise culturelle. Et en même temps, moi je vois de nouvelles pratiques se créer. J'ai des enfants encore assez jeunes, et qui sont très très encourageantes. Moi, je suis pas du tout pessimiste sur les problèmes d'identité, sur les problèmes culturels au sens large du mot, pas du tout. Je le disais à l'instant, on est en train d'assister à de nouvelles pratiques dans la ville. D'abord parce que les villes se sont transformées. On a de plus en plus d'espaces piétons, donc libérés de la voiture. Ces espaces, les jeunes, des groupes, des collectifs se les approprient. Et font leur propre ville. Et ça, c'est une chose absolument formidable.
Ouais, c'est aussi du vivant et du commun, c'est ça un peu votre objectif, non, depuis le début ?
Oui, du vivant, du commun, mais en même temps, vous savez, moi, je dis souvent, le paradoxe, c'est que j'aurais passé ma vie à essayer de rendre l'art accessible à tous, et que mon plus grand plaisir, c'est d'être tout seul dans un musée un dimanche matin.
Un mot juste du Havre 2017, ça ne doit pas ressembler à Nantes. Là, vous allez du coup travailler avec une mairie de droite, tiens.
Oui.
Ça va vous changer ? Ça serait une première pour vous.
Ben, j'ai commencé déjà depuis plus d'un an à travailler avec Édouard Philippe, qui est un homme de droite, mais qui est très marrant.
Comment ça va se passer, le Havre 2017 ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là ? Déjà.
La mission, finalement, qu'il m'a confiée, c'est de dire... Anime-moi la ville, s'il te plaît, montre que cette ville est extraordinaire. Bon, parce qu'elle l'est. C'est une ville incroyablement méconnue, alors qu'elle est d'une richesse formidable. Son architecture, c'est incomparable. Bon, donc l'idée, c'est de demander à des artistes, à des créateurs en général, parce que des artistes, mais aussi des designers, mais aussi des architectes, de venir interpréter cette ville. Voilà, on vous livre un espace, on vous livre une ville, interprétez-la, à vous de jouer. Bon. Et tout d'un coup, on va se rendre compte qu'effectivement, la ville est transformée, et même si on est à vrai, on la voit d'une autre façon, sous un autre angle, avec d'autres points de vue, et on renouvelle tout, et on renouvelle sa vie dans sa ville.
Eh bien, on verra ça l'an prochain. Merci Jean-Blaise d'être venu dans le matin d'été. Le voyage à Nantes, le long de cette fameuse ligne verte, ça dure jusqu'au 28 août.